automobile des trois accords. Pourquoi je vous fais entendre ça? Ben parce que Marie-Ève Dumont, dans le journal de ce matin, nous apprend que le nombre de véhicules volés au Québec a augmenté pour la première fois en 10 ans. Et alors, ça allait bien, ça diminuait d'année en année, notamment parce que le système antivol, les systèmes antivol avaient été installés, puis ça fonctionnait très, très bien. Ça s'avait réussi à décourager les voleurs, sauf que les voleurs se sont raffinés. Et là, c'est plus les petits bums qui venaient péter nos vitres de voiture là, ou qui servaient d'un support à vêtements là, pour débarrer le char puis partir avec. Là. Non, 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 non. Ah non, aujourd'hui, c'est des petits pirates informatiques. Ils arrivent avec leur ordinateur, ils prennent le contrôle de l'auto et puis ils partent avec l'auto. Puis à un moment donné, votre auto se retrouve quelque part au Moyen-Orient ou en Afrique. Bye bye! Alors, pour discuter de ce nouveau phénomène, phénomène, mettons, en progression, OK? Mathieu Roy, qui est chroniqueur Nouvelle Technologie au 98.5. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Bernard.
Écoute, je suis pas content de ça, moi, là. Puis je me dis, l'informatique va prendre de plus en plus de place dans les technologies automobiles au fil des années qui s'en viennent. Et donc, est-ce qu'on devient, au fur et à mesure où les ordinateurs et l'informatique prennent de plus en plus de place, on devient de plus en plus vulnérable au vol et autres détournements?
On devient vulnérable d'une manière différente. J'entends quelqu'un qui a une voiture avec clé sans contact.
Comment tu dis ça?
Est-ce que tu as toi-même une clé sans contact?
Ben, je pèse sur un bouton, là, puis c'est comme ça que ça décolle, là, mon affaire, là.
Donc, t'as plus de clé physique à tourner.
Non, je n'ai plus de clé physique à entrer.
Et comment tu trouves ça?
Ben, j'aime ça.
T'aimes ça?
Ben oui, j'aime ça. Mais là, je sais ce que tu vas me dire, mon crapaud. Tu vas dire, t'aimes ça jusqu'à temps que tu te fasses voler ton auto, parce que la fameuse technologie qui te permet de faire cela rend ta voiture plus vulnérable au vol de voiture. C'est ça que tu vas me dire, hein?
Ah oui, puis il y a eu cette espèce de fascination de vouloir éliminer cette bonne vieille clé physique, et puis ben on y est arrivé, et ce qui arrive là, c'est-à-dire le piratage des voitures et de ce genre de système-là, c'était prévisible dans la mesure où il y a absolument rien d'inviolable ou d'impossible à pirater dans le monde de l'informatique. À chaque fois que quelqu'un a bien voulu dire « Ah, vous allez voir, c'est un système de sécurité infaillible », ben ça n'a pas pris grand temps que les pirates à travers le monde ont décidé de s'y attaquer. Et c'est pas parce que ces pirates-là, ces voleurs de voitures-là, ont des intentions malveillantes que ce sont des idiots. Les techniques qu'ils utilisent, c'est des techniques qui sont quand même assez raffinées. Sauf que avec les moyens des constructeurs automobiles, avec toute leur recherche, leur développement, et avec la valeur du bien que l'on achète, là, c'est-à-dire qu'on paye 30, 40, 70, 100 000 $ pour une voiture, on s'attend évidemment à ce que ça soit d'une redoutable efficacité quand il est question de sécurité informatique, c'est bien évident.
C'est bien certain. Puis là, tu es en train de nous expliquer là, que c'est pas ça, là.
Non, c'est ça. Et là, les failles dans les voitures, elles sont maintenant nombreuses. Chaque fois qu'on crée une ouverture, avant, les ouvertures qu'on crée, c'était des ouvertures physiques, c'est-à-dire qu'on pouvait copier ou faire le double d'une clé, on pouvait crocheter une serrure, puis après ça, physiquement, ben on pouvait, comme dans les films, je suppose, je suis pas un expert en vol de voiture, mais on pouvait bidouiller quelque chose puis arriver à démarrer le véhicule. Mais aujourd'hui, on peut passer par les différentes ouvertures logicielles qui nous sont proposées dans les véhicules. Je sais qu'il y a des prises USB, il y a l'ordinateur de bord, il y a des connexions sans fil maintenant, il y a des voitures qui vont se mettre à jour lorsqu'elles vont arriver dans votre réseau sans fil de maison. Et il y a aussi, comme on en parle dans l'article, le onboard diagnostic, la fameuse prise OBD. Donc, parfois, on a besoin d'une manipulation physique sur la voiture pour être capable de la pirater, mais d'autres fois, on est capable de faire aussi un piratage qui est simplement logiciel. Et si on est capable de ne pas avoir à manipuler physiquement quelque chose, eh bien là,
c'est sûr.
Ça va devenir un jeu d'enfant.
Là. OK. Alors, Mathieu, explique-nous concrètement comment ça fonctionne. Parce que là, moi, je veux savoir, là, ma voiture est stationnée. Ils arrivent avec un ordinateur. Ils font quoi, là?
Il semble y avoir plusieurs techniques. Moi, une technique que j'ai vue récemment et qui m'a absolument bluffé, c'était quelqu'un qui était assis à un banc de parc. On faisait la démonstration et il avait dans sa poche sa clé sans contact. Quelqu'un est passé près de lui avec une espèce de lecteur de code de clé. Il a fallu qu'il soit suffisamment près de lui pour être capable de lire et de copier finalement cette espèce de code-là. Là, je vulgarise, c'est les pirates qui nous écoutent doivent nous dire, c'est pas exactement comme ça, mais ça ressemble à ça. À l'aide d'un ordinateur, ils sont capables de recréer ce signal-là et par la suite, ben, ils peuvent débarrer la porte, potentiellement démarrer la voiture. Et ce qui
veut dire, attends un petit peu, il va capter ou enregistrer le code.
Il pourrait cloner,
et j'allais dire, il va le transférer par la suite sur une autre clé avec laquelle il va pouvoir faire démarrer mon auto.
Exact. Ou en tout cas, quelque chose qui pourrait ressembler, mais qui aura la même fonction que ta clé, finalement, pour pouvoir débarrer la voiture. Et par la suite, évidemment, à l'intérieur des véhicules, il y a maintenant des GPS, mais ils vont aussi utiliser des brouilleurs d'ondes pour être capables d'effacer, finalement, leur position ou leur trace. Donc, je vous le dis, les techniques sont quand même assez raffinées, mais c'est parce qu'il y a très certainement un profit de l'autre côté, parce que l'occasion fait le larron. Hein.
Mais on
Et probablement qu'il y a peut-être aussi à s'interroger comment les voitures peuvent être exportées une fois volées.
Ben oui, justement.
C'est fou d'être capable de se débarrasser de ça aussi facilement, parce que ce que je semble comprendre, c'est que les voitures se font encore voler, mais il y a beaucoup des pièces qui sont plus facilement retraçables parce qu'ils ont des capteurs, parce qu'ils ont des émetteurs, et on en place souvent dans des systèmes antivol un peu partout dans le véhicule.
Ouais, il y en a qui sont burinés, là.
Au-delà d'être burinés, pas juste gravés, il y a aussi physiquement une petite puce qui peut indiquer sa position ou nous signaler qu'elle est à proximité si on a l'émetteur adéquat, là.
Ah oui, t'as des fabricants qui vont aller à ce point, qui vont aller dans le raffinement puis dans la sophistication à ce point-là. Là.
Il faut aller, c'est comme une partie d'échecs, il faut voir plusieurs coups à l'avance. Et les pirates, ben évidemment, ils échangent toutes sortes de techniques un peu partout sur le web, mais il y a une conférence qui se tient annuellement qui s'appelle la DEFCON, D-E-F-C-O-N. C'est une espèce de congrès où il y a là des professionnels en sécurité informatique, des journalistes, des hackers, des avocats, des employés du gouvernement, et là-bas, on fait la présentation de ce qu'on a réussi à pirater. Il y a des concours de piratage, et c'est là d'ailleurs, en 2015, où on avait présenté une Jeep Cherokee, et là, ça avait été complètement hallucinant, qui roulait sur l'autoroute, et c'était avec le magazine Wired, et on était capable, à distance, de démarrer l'air climatisé, les essuie-glaces, et même ultimement de couper le moteur.
Écoute, ça me fait tellement penser à la scène de Homeland où ils réussissent à prendre le contrôle du stimulateur cardiaque.
Ouais.
Puis il meurt, le gars. Parce qu'ils réussissent. Non, mais. Puis il paraît que c'est pas de la science-fiction, ça, là.
Ben écoute, on est capable de pénétrer des réseaux de domicile, par exemple, en passant par tantôt un moniteur de bébé, tantôt un réfrigérateur connecté. Donc, évidemment, on est tout le temps aussi vulnérable que l'est le maillon le plus faible de notre chaîne connectée, si tu veux. Donc, aujourd'hui, c'est la voiture, mais il y a pas si longtemps, on parlait de la maison. Puis tout ce qu'on va arriver à connecter va aussi, ultimement, avoir de potentielles failles.
Écoute, il y a beaucoup de techno
dans l'auto.
L'informatique, c'est extraordinaire. Mais en même temps, ça crée une vulnérabilité, une fragilité immense dans nos sociétés, dans nos vies respectives. On est vraiment à la merci d'un petit whiz, là. On est à la merci des pirates, des hackers, qui, à un moment donné, peuvent être en avance sur la technologie qu'on a acquise. Et puis, on se retrouve du jour au lendemain... gros gens comme devant, à la merci de ces gens-là.
Et honnêtement, même si ce qu'ils font est répréhensible, il faut respecter que ce soit des experts, c'est pas des idiots. C'est ça, souvent, c'est l'attitude que l'on a.
Non, il faut les respecter, justement, comme tu dis, si on veut rester en avance sur eux, si on veut être capable de déjouer leurs plans. Il faut les respecter. Il faut que tu respectes ton adversaire si tu veux pouvoir jouer puis le battre à son propre jeu.
Et le matériel qu'ils utilisent, souvent, ça peut être du matériel qui coûte très cher, mais le prix en informatique des matériaux descend à une vitesse folle. Donc, à un moment donné, ce qu'ils vont utiliser va coûter de moins en moins cher et va devenir, entre guillemets, presque plus accessible. On l'a vu dans d'autres domaines, dans les consoles de jeux vidéo. On a vu, tu sais... Tout ce qui peut avoir des composantes électroniques et informatiques devient potentiellement piratable ou modifiable. C'est assez invraisemblable.
Là, je lis toujours dans le papier de Marie-Ève Dumont ce matin, là, le Onboard Diagnostics, le OBD. Ça, là, c'est quoi? C'est-tu l'équivalent de l'ordinateur de bord? C'est quoi ça, le Onboard Diagnostics, le système de diagnostic embarqué dans notre voiture?
Ben ça, souvent, quand tu vas au garage, souvent, ils vont se brancher sur ton OBD, justement. Ils ont une espèce de petit lecteur et ça va donner comme ça un genre de bilan de santé de ta voiture. Puis tu peux faire certaines modifications.
D'accord.
Mais ça, si on est capable de faire des lectures puis de mettre à jour un logiciel via l'équipement du manufacturier, je te laisse deviner la suite, là.
Ben, vas-y, la suite, vas-y.
Ben, la suite, c'est que moi, je suis capable d'intégrer peut-être une prise similaire et d'envoyer le logiciel que je veux ou encore de donner une commande d'activation, par exemple, pour démarrer le moteur ou encore pour carrément effacer le code de la clé d'origine et lui en implanter une nouvelle.
Mais avec les voitures autonomes, le Mathieu Roy, là, les voitures autonomes qui vont être plus informatisées que jamais, ils vont même conduire à notre place. Je vais te dire une affaire, je regarde ça, là, puis je me dis, un des très, très grands enjeux de ces voitures-là, ça va être le risque que quelqu'un, à un moment donné, prenne le contrôle de la voiture et provoque un accident. Quelqu'un qui veut ma perte, garde, ils sont capables, avec la technologie, somme toute, assez limitée par rapport à ce qu'on connaîtra dans 25 ou 50 ans, ils sont capables déjà de partir avec l'auto, de déjouer les systèmes de sécurité. C'est bien évident que dans 25-50 ans, un des enjeux très importants de la voiture autonome, ça va être le danger que quelqu'un prenne le contrôle de l'auto à notre insu.
Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, probablement que l'auto ne sera plus la tienne. Tu vas utiliser une auto comme aujourd'hui on utilise un Bixi. Je pense que la possession même du véhicule va devenir quelque chose qui va t'appeler à se transformer. Donc, ça sera pas ta voiture comme telle, ça va être la voiture dans laquelle tu vas prendre place. C'est ma vision un peu là dans un avenir à moyen terme. Cela dit...
Non, c'est intéressant ce que tu dis là.
Si je sais que t'es dans telle voiture, effectivement, mais il y aura probablement toujours une espèce de manipulation physique qui va permettre de tout finalement de tout déclencher, c'est-à-dire de tout arrêter. Hein. Mais la possession même de la voiture, je pense que ça va être appelé à se transformer. Là, on le voit d'ailleurs avec les plus jeunes, n'ont plus ce besoin d'avoir un véhicule. C'est plus non plus une espèce de
fierté.
De placer ça dans l'entrée de garage. Hey, mon père s'est acheté un Cadillac, regarde ça, puis il lave à tous les dimanches, puis il l'utilise seulement 5% de son temps actif. Là.
Et pourquoi on n'aurait plus cette fierté-là dans 25? Alors, je veux dire, moi, si je continue à travailler, mettons, je vais avoir besoin d'un véhicule dans ma cour le matin pour aller travailler. Pourquoi est-ce que
tu pourrais carrément avoir soit une navette ou encore un véhicule qui va passer te prendre, qui ne sera pas le tien, mais qui va faire partie d'une flotte à laquelle tu t'es abonné. Là. Ça pourrait être un service d'abonnement comme on s'abonne à Bixi. Là. Évidemment, c'est une discussion que l'on a, là. Ce ne sont pas des faits, mais c'est quand même un peu absurde de payer 4, 5, 600, 800, 900 $ par mois pour un véhicule que tu utilises à peu près seulement entre 5 et 10 % du temps. Tu ne fais que laisser dormir ton véhicule, finalement. Il dort toute la nuit, il dort pendant que tu travailles. Le seul moment où tu l'utilises, c'est pour te rendre au travail et pour revenir du travail et peut-être un peu pour le loisir aussi.
Écoute ça, là, j'en ai un qui m'écrit, là. Il dit « Je gagne ma vie en hackant des véhicules. » Là, je sais pas s'il dit vrai, là. Écoute bien ça. Il dit « Je gagne ma vie en hackant des véhicules. Les concessionnaires tentent de garder l'exclusivité des réparations. » Mon rôle est de permettre aux ateliers indépendants d'effectuer les réparations électroniques.
Écoute, moi, il n'y a rien qui m'énerve le plus que quand ma voiture me bip que c'est le temps d'aller faire mon changement d'huile. Hey, ça fait 5 km de trop que j'ai fait depuis mon 5000 km. On peut-tu, s'il vous plaît, brûler son gaz égal? Madame Lotto m'a décidé quand je vais aller faire mon changement d'huile. J'ai déjà fait 250 km de plus, puis c'était pas si mal, là. C'est sûr que on crée avec la technologie de nouvelles façons d'utiliser et d'être en relation avec son véhicule.
Ouais, écoute. En tout cas, faut continuer à regarder ça de très très près, l'évolution de la technologie, de l'informatique en particulier. Si les gens qui nous écoutent se posent la question, quels sont les véhicules les plus souvent volés là? Alors, je vous en donne le top 10 du Québec. OK, le top 10 du Québec, selon Jean-François Racine. La Toyota Van 4Runner VUS 2016. Et il y a, pas loin derrière, le VUS 2015.
C'est de tout
Toyota.
Des gros véhicules,
hein? Toyota Camion, le Van 4Runner. Entre les deux, il y en a un autre, c'est la Tundra de Toyota, aussi une camionnette. Après ça, il y a la BMW, la Cabriolet 2009. 2009, tu sais, tu te dis, elle a quand même 10 ans, là, la berline, là. Mais elle fait partie des voitures les plus souvent volées en 2017. Après ça, bon, je vous les donne, là, vite, 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 l'Infiniti, le camion multisegment, le Ford F-250 de 2003, le Ford F-250 2006. Ça, c'est deux camionnettes. Le Subaru ou la Subaru Impreza, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. La Toyota Tundra camionnette et finalement la Jeep VUS, la Wrangler 2016. Ça, c'est les plus souvent volés. Et il y a un auditeur qui me posait la question, comment ça se fait, là? Comment est-ce qu'ils réussissent à les sortir du Québec, du Canada? Moi, ce que je comprends, là, c'est qu'ils les mettent dans des conteneurs. Ils embarquent ça dans des conteneurs.
C'est aussi ma perception. Et tu remarqueras que c'est des véhicules qui s'exportent bien. Hein. C'est des, pour la plupart, il y en a qui sont quatre roues motrices. Ce sont de gros véhicules. Je constate qu'il n'y a pas ma Honda Odyssey 8 places. Pas
non,
de danger.
Ma Mazda CX-5 non plus n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux? Hein?
Bon,
juste aussi bien de même.
C'est-tu on va garder nos autos pour encore un petit bout de temps.
Ben, j'allais dire, ils vont peut-être, on a peut-être moins de risques de se les faire voler. Nos primes d'assurance vont peut-être rester à un niveau, mettons, raisonnable. Mathieu Roy, chroniqueur Nouvelle Technologie. Toujours un plaisir, Mathieu. Merci.
Prochaine étape, on va aller rouler ensemble dans une voiture autonome?
Donne-moi encore une couple d'années, OK?
Je te donne 30 jours ouvrables.
On se reparle?
Salut.
Salut.